8h42 à Paris, tout de suite les sports sur RFI. Avec vous Victor Missistrano, on démarre par une excellente nouvelle en football. Le club de Lille enregistre le retour d'un joueur longtemps éloigné des terrains.
Nabil Bentaleb, autorisé à rejouer en compétition. La commission médicale de la Fédération française de football a donné son feu vert cette semaine. L'international algérien avait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire en juin dernier. Il est le premier joueur de Ligue 1 autorisé à rejouer avec un défibrillateur automatique. Âgé de 30 ans, le milieu du LOSC a travaillé dur depuis septembre afin de retrouver le haut niveau. Il ne s'est jamais vraiment éloigné de ses coéquipiers, qui lui ont d'ailleurs réservé une haie d'honneur pour fêter son retour.
Peut-être que eux s'en rendent pas compte, mais ça me donne une source d'énergie quand je viens les voir. Je repartais toujours avec l'énergie en double et je rentrais chez moi, je travaillais en plus, je faisais du sport comme un malade. Parce que ça me motivait, je les voyais prendre du plaisir, s'amuser et ça me rappelait les raisons pourquoi je voulais faire ça. C'était toujours une source de motivation et quand t'es éloigné autant que ça des terrains, et sans vraiment avoir la perspective de savoir si tu vas reprendre ou non. Mais moi, je savais pas si au bout du bout, j'allais faire partie de ce collectif ou pas. C'est ça qui me faisait mal, mais c'est ça qui me donnait envie de travailler encore plus.
Nabil Bentaleb, qu'on espère bientôt de retour sur un terrain de Ligue 1. En attendant, Lille se déplace demain à Rennes.
Trois matchs au programme aujourd'hui pour commencer un duel entre deux monuments historiques du foot français.
Oui, Julien, Marseille reçoit Saint-Etienne au Vélodrome. L'OM qui pourrait aligner deux compatriotes de Nabil Bentaleb, des recrues, Amine Gouiri, attaquant venu de Rennes, ainsi que le milieu Ismaël Benacer, arrivé de l'AC Milan. Des transferts très bien accueilli par les supporters olympiens. Depuis Fouad Kadir, il y a 10 ans, ils n'avaient plus vu un seul joueur algérien porter le maillot de leur club. Le reportage de Siam Spencer à Marseille.
Au local des South Winners, club de supporters de l'OM, on charge les tifos pour le match dans un grand camion. Bonne humeur au rendez-vous après un mercato d'hiver réussi pour Amine.
On est très content. Ils vont relever l'OM parce que là, il nous manquait un bon milieu technique. Benacer vient d'arriver. Gouiri, il est venu, ça fait un bon duo avec Benacer. On a un bon neuf. Et en 3 matchs, il a déjà 2 passes décisives.
Même son de cloche pour Roger, pour qui les deux Algériens collent bien à la ville de Marseille.
C'est cosmopolite, ça. Il y a une grosse communauté aussi algérienne, et tant mieux. C'est vraiment l'équipe qu'il nous fallait, c'est les joueurs qu'il nous fallait. J'espère qu'on atteindra les sommets.
Avec une mention spéciale pour Amine Gouiri, décisif sur le dernier match de l'OM contre Angers.
Par sa lecture du jeu, sa vitesse, sa finesse technique aussi, c'est grâce à des garçons comme ça qu'on va grandir aussi.
À la commanderie, on se félicite aussi des recrues et de leur intégration à l'effectif. Pierre-Émile Heubière est revenu en conférence de presse sur le dernier arrivé, Ismaël Benacer.
Ismaël, c'est un joueur très doué, c'est un joueur de très haute qualité. Tu sens aussi qu'il est ici pas très longtemps, mais tu sens sa dédication, sa envie de très vite s'intégrer au groupe.
Le duo algérien Gouiri-Benacer qui foulera peut-être la pelouse du Vélodrome ce soir dans un stade plein à craquer.
OM Saint-Etienne, coup d'envoi 16h, temps universel. Et puis aujourd'hui marque la reprise du championnat en République démocratique du Congo. La phase retour de la première division débute dans un contexte d'incertitude lié à la guerre dans l'est du pays. Parmi les affiches, Julien, un derby entre Lubumbashi Sport et le TP Mazembe. Coup d'envoi 13h, temps universel.
Merci Victor Missistra. Très bonne journée. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Pour sanctionner une loi sur l'expropriation de certains propriétaires afrikaners, Donald Trump suspend l'aide des États-Unis à l'Afrique du Sud et à la surprise générale, toute la classe politique du pays, y compris l'Alliance démocratique opposée à la dite loi, se mobilise derrière Cyril Ramaphosa en dénonçant une désinformation propre à entacher l'image de leur pays. Comment expliquer le contraste avec la RDC où les principales formations de l'opposition accablaient cette semaine Félix Tshisekedi pour sa gestion de la guerre dans l'est du pays.
La conscience qu'ils ont de leur responsabilité vis-à-vis de la nation est peut-être ce qui distingue la classe politique d'Afrique du Sud des politiciens de nombreux pays où beaucoup ramènent tout à leur rancœur personnelle, à leurs intérêts immédiats. En RDC, certains ne conçoivent l'opposition entre adversaires politiques qu'en animosité incurable. En Afrique du Sud, pour préserver l'essentiel, ils savent taire à l'occasion leurs dissensions. Même du temps de l'apartheid, tous les Blancs n'étaient pas des partisans bornés du racisme d'État. D'ailleurs, les extrémistes afrikaners ont décliné l'offre d'asile de l'Américain, un président rétif aux étrangers qui envahissent son pays, et d'une si soudaine hospitalité. Sa logique est indéchiffrable. ou trop explicite.
Qu'y a-t-il de trop explicite, comme vous dites, dans cette offre ?
À quoi ? À qui la fait-il ? À leur condition de persécuter ou à leur couleur de peau ? En Afrique du Sud, la dimension raciale de la question de la terre est telle que l'on a dû constitutionnaliser la nécessité d'un rééquilibrage décent. 72% des terres agricoles appartiennent à 8% de Sud-Africains blancs. Certains en possèdent tellement qu'ils en laissent en jachère ou en garantie bancaire. 30 ans après la fin de l'apartheid, le statu quo était intenable. Les expropriations qui transforment Donald Trump en défenseur des droits de l'homme ne visaient qu'à leur reprendre les terres non exploitées. Sauf que le président des États-Unis, tel le promoteur immobilier qui ne peut s'empêcher d'être, salive devant chaque hectare, alors que l'on attend du leader du monde libre d'oublier celui où prévalaient les méthodes d'antan des milieux d'affaires new-yorkais avec les Bernard Madoff et autres personnages convaincus que l'essentiel est de prospérer à la manière d'un Charles Ponzi escroquant de nouveaux clients pour rémunérer les précédents. La question de la terre en Afrique du Sud est bien trop sensible pour accepter que Donald Trump s'en mêle.
Pourquoi donc est-elle si sensible, si délicate cette question ?
Sans doute parce qu'elle renvoie sans cesse au piège infernal de la responsabilité initiale. Qui donc le premier a exproprié qui ? Nelson Mandela, magnifié notamment en Occident pour son leadership tolérant, a laissé beaucoup d'amertume chez les siens pour n'avoir pas osé restituer leurs terres aux communautés noires à la fin de l'apartheid. Même Robert Mugabe a dû s'y prendre par étapes avant de confisquer leurs terres aux blancs du Zimbabwe au début des années 2000. Durant les 14 semaines passées en 1979 à négocier l'indépendance du Zimbabwe à Lancaster House, la délégation du Front patriotique qu'il conduisait avec Joshua Nkomo a maintes fois menacé de se retirer si elle ne pouvait, en même temps que l'indépendance, restituer au peuple les terres accaparées au temps colonial. Le gouvernement Thatcher au Royaume-Uni et l'administration Carter aux États-Unis leur proposèrent alors d'accepter l'indépendance avec la promesse de leur octroyer dans 5 ans les fonds pour acheter leurs terres aux propriétaires blancs. À l'échéance, Ronald Reagan prétextera de l'orientation marxiste du régime zimbabwéen pour refuser d'honorer la promesse. Mugabe revient régulièrement à la charge, en vain. Aussi choisit-il, 20 ans après l'indépendance, de recourir aux grands moyens avec quelques maladresses. Des manifestants expulsent les blancs et occupent les propriétés. C'est alors que, pointant du doigt Mugabe, Tony Blair invitera le monde à contempler ce qu'est un dictateur sans pitié. Sans doute Mugabe l'était-il, mais était-ce vraiment là la question ? Une belle diversion en tout cas.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et dans Menace sur l'information cette semaine, un événement en marge du sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris lundi et mardi à quelques pas du Grand Palais où discutaient les dirigeants. Le Théâtre de la Concorde accueillait une rencontre du SNJ, le Syndicat National des Journalistes, qui organisait des débats autour des questions éthiques et déontologiques que pose l'IA lorsqu'elle est utilisée en journalisme. Une pratique de plus en plus courante, Oriane Gendreau.
Dans le journal sportif L'Équipe, cela fait bien longtemps que l'IA n'est plus sur le banc. Cet été, elle générait seule des podcasts sur les Jeux Olympiques à partir des articles du quotidien. Un grave problème déontologique pour Francis Magua, un des rédacteurs du journal.
Ça a été vendu comme ça ne coûte rien et il n'y a pas de travail supplémentaire au niveau de la direction. Donc notre réaction de se poser des questions sur qui est responsable et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur. L'IA, c'est une nouvelle forme de croyance qui permet peut-être d'avoir une rentabilité économique. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de journalistes.
Et les premiers journalistes touchés risquent d'être les secrétaires de rédaction, c'est-à-dire ceux qui relisent et corrigent les articles. Pourtant, bien loin de décharger les journalistes de ces tâches supposées rébarbatives et chronophages, les erreurs trop fréquentes de l'intelligence artificielle les poussent à être 2 fois plus vigilants. C'est ce qu'explique Éric Barbier, journaliste à l'Est Républicain et co-organisateur du contre-sommet.
Les secrétaires de rédaction aujourd'hui sont directement ciblés.
Il y a sans arrêt un contrôle humain, une relecture humaine qui est indispensable parce que ces IA commettent tellement d'erreurs qu'il faut repasser derrière elles en permanence. Donc en fait, il n'y a aucun gain de temps. On ne peut pas demander un journaliste, comme on l'entend aujourd'hui beaucoup, d'ailleurs beaucoup dans la bouche même du président de la République, il faut que les journalistes fassent leur métier, vérifient l'information et tout ça, et leur demander d'IA générative qui n'est pas fiable. C'est complètement paradoxal comme raisonnement. Donc revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire donnons-nous le temps de faire notre métier, un métier qui respecte des règles éthiques, déontologiques, d'information, de collecte d'informations sourcées, vérifiées.
Et pourtant, l'utilisation de l'IA se répand dans toutes les sphères journalistiques. Le journal Le Monde et l'agence France Presse ont déjà passé des contrats avec deux logiciels d'intelligence artificielle générative. Face à cette arrivée massive de l'IA dans les rédactions, Éric Barbier propose des garde-fous.
Ben, c'est qu'on se mette autour d'une table déjà pour en discuter, comme le préconise le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe une échelle de risque à l'utilisation de ces IA, avec un risque faible, un risque modéré, un risque à proscrire, qu'on se mette autour d'une table justement pour, en appliquant cette échelle de risque, pour définir quelles IA on peut potentiellement utiliser, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun risque sur nos métiers.
Des chartes pour réguler l'IA commencent à se mettre en place dans les médias, signe que les rédactions prennent de plus en plus conscience des risques que pose un tel outil.
Oriane Gendreau pour Menace sur l'information.
RFI Matin.
Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin dans moins de 10 minutes. Mais d'abord un nouvel épisode d'Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. On découvre chaque semaine un mot francophone à travers le témoignage des amoureux de la langue française et avec un homme que les auditeurs d'RFI connaissent bien cette semaine.
C'est un mot très sympathique, hein. Il est court, il est moderne et puis il représente quelque chose de très utile. Et moi le matin, en me levant, je m'en sers.
Si sa voix vous dit quelque chose, c'est bien normal, puisque l'homme anime il y a encore peu de temps sur cette antenne des chroniques et des émissions sur la langue française. Il y a d'abord eu Parler au quotidien, et puis bien sûr Les mots de l'actualité, et enfin La danse des mots. Au total, ça fait près de 40 ans d'aventure radiophonique à RFI, et comme si ça ne suffisait pas, en parallèle, de nombreuses émissions sur le jazz à France Musique. Bref, autant dire qu'Yvan Amar est une vraie bête de micro. Alors, le 13 février dernier, c'était la Journée mondiale de la radio, et pour l'occasion, il a choisi de nous parler du mot qu'il présente dans le dernier ouvrage auquel il a participé. Le livre s'intitule « Du poilu au métaverse, 300 mots qui ont révolutionné notre société et la langue française ».
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Bien, à votre avis, de quel mot aurais-je envie de parler? Bien sûr, du mot radio, qui est vraiment un mot du XXe siècle. Et parce que vous le savez, je suis un radioteur. Oh, le mot n'existe pas. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'étais ravi la première fois que je l'ai entendu. Un radioteur, c'est celui qui travaille à la radio et qui radote un peu, on va dire ça rapidement.
Alors, Yvan Amar, ce mot radio, à première vue, il est tout simple. Pourtant, il est un petit peu plus complexe qu'il en a l'air.
Il est complexe d'abord parce qu'il est tronqué. Au départ, on parle de radiophonie. Et le mot radiophonie, comme le mot radio, peut avoir plusieurs sens. La radiophonie, c'est le procédé qui permet de faire porter une voix ou des sons à des milliers de kilomètres. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le poste, c'est-à-dire le poste récepteur qui permet d'écouter ce que quelqu'un vous a dit alors qu'il habite à 10 000 kilomètres. Mais on a fini par appeler l'appareil radiophonique une radio parce que ça allait plus vite, oui.
Donc c'est à la fois le poste, le procédé, mais c'est aussi une image qu'on utilise, par exemple, en médecine.
Absolument. Mais à ce moment-là, il s'agit d'une radioscopie, ce qu'on voit grâce à un rayon, et non pas ce qu'on entend.
Alors, le mot radio, on le retrouve dans plein de langues. On le retrouve en anglais, on le retrouve en allemand, on le retrouve même en turc.
En turc
on le retrouve.
Oh, je ne le savais pas. Oui.
Est-ce que ce côté international participe à votre intérêt pour ce mot?
Oui, j'aime beaucoup les mots internationaux. Il n'y en a pas tant que ça. Et cet internationalisme de la radio vient peut-être de son origine. Hein. Ça vient bien sûr du latin. Et radius en latin, c'est une tige simplement. Mais c'est devenu la tige dont on se servait pour faire une roue. On imagine tout à fait comment on a eu cette vision du soleil, de quelque chose qui rayonne. Et le mot rayon, le verbe rayonner, sont de la même famille que le mot radio, bien entendu.
En somme, Yvan Amar, vous êtes un homme de radio.
Radioteur un jour, radioteur toujours.
Selon le dictionnaire Larousse, le mot radio est une abréviation de radiodiffusion, radiographie, radiotéléphone, radiotélégramme ou radiotélégraphiste. C'est aussi le poste récepteur de radiodiffusion sonore.
C'était un mot, une histoire.
avec Lucie Bouteloup et Yvan Amar, ancienne figure de notre radio, que vous pouvez retrouver dans un ouvrage collectif paru aux éditions Larousse, Du Poilu au Métaverse. Les 300 mots qui ont révolutionné notre société, vous l'écoutiez autrefois sur RFI dans les mots de l'actualité, et vous avez de la chance parce qu'ils sont encore disponibles sur le site françaisfacile.rfi.fr. On apprend plein de choses. Et bientôt, 9h à Paris, avant le prochain journal et la fin des RFI matin, un peu de musique avec le duo français Walter Astral et son titre Zénith, c'est dans la sélection du mois des RFI. Que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Voilà, c'est la fin des RFI matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures ensemble. On se retrouve demain dès 5h temps universel et d'ici là, l'info continue. Le journal dans une minute. Très bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Le Bitcoin autour de 100 000 dollars. Les cours des crypto-monnaies battent des records. Un phénomène économique et politique qui, malgré les risques liés à leur volatilité, attire les investisseurs du monde entier. Les cryptos sont-elles l'avenir de la finance? On en parle avec leurs supporters et des spécialistes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Sénégal, le nouveau pouvoir accuse le régime sortant d'avoir menti et falsifié les chiffres sur la situation des finances publiques. Suite au rapport édifiant de la Cour des comptes, la justice va ouvrir des enquêtes. Le camp Macky Sall dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous?
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Chantal Leroux, avec vous au téléphone, lundi, à partir de 8h10 TU.
RFI.